Bonjour mes bien-aimés. Alors Luc, j'aimerais tout de suite te décharger de toute culpabilité. Moi, je n'ai pas non plus réalisé quand j'ai accepté que... Mais c'est bien comme ça. En fait, quand j'ai été demandé pour le message, j'avais à cœur de parler des tentations de Jésus. Et en fait, les deux dernières semaines que j'ai passées, j'ai vraiment... était nourri de ce message, et s'il ne vous parle pas ce matin, en tout cas moi, il m'a secouru. Alors, j'aimerais lire avec vous ce texte dans Matthieu 4, les tentations de Jésus-Christ. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Ou dans d'autres traductions, tu ne tenteras pas ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Jésus est venu sur terre pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour frayer le chemin, pour payer à notre place. Et à ce moment où Jésus était tenté par le diable, il connaissait déjà vers où il devait aller, quel était son chemin sur la terre, quel était le prix à payer pour que nous soyons rachetés. Alors, parfois on lit ce texte simplement, le diable cite des versets de la Bible, mais Jésus lui répond, et finalement Jésus gagne, c'est bien, et après on continue. Mais je crois que ce texte de la tentation de Jésus est une introduction à son enseignement qui est le sermon sur la montagne dans les chapitres 5 à 7. Cet enseignement qui nous dit ce que c'est d'être un disciple de Jésus. Et entre ces deux textes se trouve l'appel de quatre disciples. Donc là, il y a une continuité. Et je ne pense pas que Jésus ait eu besoin de passer un test pour voir s'il était apte à accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Ce n'était pas « Ah bon, il a réussi, donc il peut le faire. » Jésus n'a pas été tenté pour lui-même, mais je crois que Jésus a assumé son humanité en tout point parfaitement. Et si Jésus a été tenté, c'est pour nous enseigner, nous, humains, comment nous pouvons nous comporter. C'est un modèle pour nous, dans notre vie quotidienne, comment nous pouvons réagir. Alors, je crois que si nous voulons suivre Dieu, si nous voulons le servir, nous devons répondre à trois questions qui sont posées dans ce texte de la tentation de Jésus. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre parce que j'aimerais m'attarder un peu plus sur la deuxième. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc il y a une question où nous pouvons répondre. Quand Jésus répond à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que je suis prêt à rester attaché à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances ? Quel que soit le prix que je paye, Ou est-ce que tout simplement, je peux faire comme Ésaü, qui pour un plat de lentilles a vendu son droit d'aînesse. Il a méprisé finalement ce que Dieu avait prévu pour lui, pour un plat de lentilles. Et parfois, nous sommes aussi prêts à faire des concessions et à des principes parce que simplement, on se dit, on a aussi le droit de se faire un peu de bien. Et si nous voulons comprendre ce texte des tentations de Jésus et vraiment aller un peu plus en profondeur ce que ça signifie pour nous, c'est bien d'aller voir quel est le texte que Jésus cite à Satan pour lui répondre. Et donc là, ce texte, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il se trouve dans Deutéronome 8. J'aimerais lire quelques versets, alors on n'a pas le temps de tout lire, mais ce serait vraiment intéressant de lire ce chapitre 8 en entier. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. C'est un chemin d'apprentissage. Disons que c'est une première question que nous pouvons aborder si nous voulons suivre Jésus. Est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu, à tenir compte de ses commandements, quelles que soient les circonstances? On peut parfois aussi, le texte le dit un peu plus loin dans ce chapitre de Deutéronome, on peut aussi céder à l'orgueil quand tout va très bien, quand tout marche bien pour nous, qu'on oublie le Seigneur. La deuxième question qu'on peut répondre, à laquelle on peut répondre, c'est quand Jésus répond à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Et la question qui me vient par rapport à ça, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Jésus cite ce verset qui est dans Deutéronome 6, 13, qui est aussi un texte qui nous parle des commandements de Dieu et qui nous invite à ne pas oublier que c'est Dieu qui nous a délivrés de la main de l'ennemi. Est-ce que je suis prêt à refuser tout compromis? Jésus répond à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu » quand Satan lui propose la terre entière en échange de l'adoration. Et finalement, c'est pour cela que Jésus est venu, pour reconquérir la terre entière, pour la reprendre des griffes de l'adversaire, en sachant le chemin qu'il devait parcourir pour faire cette démarche et le prix qu'il devait payer. Ça aurait été un compromis sympathique, beaucoup moins cher payé. Et parfois, c'est une tentation qui peut aussi nous venir. On sait par quel chemin on doit passer, et parfois, on trouve un moyen un peu plus sympathique, plus confortable, mais qui nous conduit finalement à adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Alors, je ne veux pas continuer plus longtemps sur ces deux premières tentations, mais sur cette deuxième, quand Jésus répond, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Longtemps, j'ai cru que cela voulait dire qu'on ne devait pas forcer la main du Seigneur. Comme quand on était dans les cours d'école, on disait à nos copains, « T'es pas chiche de faire... » Et dans le sens où Jésus était là sur le temple, et Satan lui proposait de sauter, et le Seigneur aurait envoyé ses anges pour le protéger. C'est pas simplement ça. Donc, si on va lire ce texte que Jésus cite, On se trouve encore dans l'histoire du peuple d'Israël, dans Exode 17. Et là, la question qui me vient par rapport à cette tentation, c'est est-ce que je suis sûr que Dieu est avec moi? C'est aussi une réponse qu'on peut donner. Exode 17, verset 7, c'est encore le peuple qui est en train de murmurer. Et c'est, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand je l'ai lu la première fois. Ils avaient soif et ils réclamaient de l'eau à boire. Et là, ils disent au verset 7, enfin c'est Moïse qui dit, il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant, l'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous? Quel culot quand même de dire ça. Oui ou non, est-ce que tu es là? Alors on peut s'imaginer ce peuple qui a vécu des miracles. La sortie d'Égypte, traverser la mer. Ils ont vu la main de l'Éternel. Il y a la présence de l'Éternel au milieu d'eux. Et ils disent, l'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous? Alors on peut dire qu'ils sont gonflés quand même, mais au bout d'un moment, on se rend compte que bah finalement, nous, on a aussi cette question parfois. Quand il y a des choses qui nous arrivent, c'est même pas est-ce que l'Éternel est avec moi, oui ou non, c'est je me demande si l'Éternel n'est pas contre moi, carrément. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent de travers, on peut se demander. J'ai peu dormi ces derniers temps. Je dois arroser les champs et en même temps il y avait la moisson. Et pendant la moisson, la moissonneuse est tombée en panne. Et donc je l'ai réparée. Et quand je l'avais réparée, on avait commencé à moissonner une demi-heure. Il y a une pluie qui est venue, juste assez pour mouiller la paille et pour que la moisson s'arrête pour la journée, mais pas assez pour arroser les champs. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est le message? Et chaque jour, c'était cette pensée vraiment, cette pensée agréable. Alors, je ne m'appelle pas Peter Pan, mais cette pensée agréable, je suis avec toi. Et vraiment, il y avait toujours ces mots qui revenaient. Pense à ce que tu veux partager dimanche. Et je disais, oui, Seigneur, tu es avec moi. Et la semaine a continué d'être difficile. Et en plus, le résultat de la récolte n'était pas bon. J'étais à 20% en dessous des voisins. Et là encore, je me dis, Seigneur, ça devrait être le contraire. D'après tes promesses, ça devrait être le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Et dans cette situation, je suis tenté de, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je suis tenté de dire, mais c'est n'importe quoi, j'ai fait des erreurs, Dieu n'est pas avec moi, et on a envie de passer à autre chose. Et là encore, cette pensée est venue, je suis avec toi. Et je crois que c'est important dans nos déserts de ne pas constater le désert et de tirer les mauvaises conclusions. De dire, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, c'était pas ce qu'il fallait faire. Dieu n'est pas avec moi, manifestement. Donc, je laisse tomber. Ce serait une mauvaise conclusion. Quand nous sommes dans le désert, c'est bien de toujours arriver à cette conclusion, Dieu est avec moi. Même si on ne le voit pas, mais de partir de cette base, Dieu est avec moi. Penser que Dieu est avec moi, ce n'est même pas un pas de foi quand je lis ce texte. Ce n'est même pas avoir beaucoup de foi de croire que Dieu est avec moi. C'est simplement de la désobéissance de croire qu'il n'est pas avec moi. Et c'est beaucoup plus simple si on le regarde dans ce sens. De toute façon, Dieu est avec moi. Et si je crois le contraire, je suis en train de désobéir au commandement de Dieu. Je suis en train de tenter Dieu. Alors si nous sommes dans cette situation difficile où nous faisons ce constat, Dieu est avec moi, après Dieu peut nous enseigner. Et alors j'étais en train de me blâmer de ce que j'ai fait sur mon blé, j'ai essayé des choses. Et alors le Seigneur m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as fait ces choses? Et alors j'ai ressassé dans mon esprit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ces choses? Mais c'est parce que j'avais cru aux promesses de l'Éternel. C'est parce que je voulais essayer des choses. Parce que j'ai cru en ta parole, Seigneur. J'ai cru dans les promesses que tu m'as données. Et là, Dieu m'a répondu, mais alors tout est bien. Et je ne me base pas sur le résultat, mais je me base sur cette relation avec Dieu. Et tes amis m'ont envoyé un message en me disant, la récolte est de toute façon bonne parce que c'est la sienne. Et nous avons travaillé ensemble. Et ce matin, j'aimerais vous encourager vraiment quand il y a des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu as fait les choses, même quand le résultat est mauvais? Parce que j'ai cru en la parole de Dieu. Et Dieu me dit, mais c'est bien comme ça, tu vas y arriver. Le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le désert parce qu'il a cru en la promesse de l'Éternel. Il a pu se dire, mais c'est quoi ce programme? C'est pas ce qui était prévu. Mais c'est parce qu'il a cru qu'il est dans le désert. Et je trouve cette parole difficile, mais je trouve ça quand même vraiment encourageant. C'est parce qu'on a cru qu'on est là où on est. Alors c'est sûr que parfois on fait des galères. Enfin, on est dans des galères qu'on a cherchées nous-mêmes. Je ne parle pas de ça ce matin. Je parle des démarches de foi qu'on fait et parfois de l'absence de cohérence entre ce qu'on a cru et ce qu'on voit. Mais la terre promise va venir. Alors nous continuons avec foi parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est avec nous et nous croyons en sa parole. J'aimerais terminer encore avec une expérience que j'ai vécue il y a un peu plus longtemps. Parfois, on pense aussi que Dieu vient nous voir quand il a besoin de quelque chose. Il vient nous voir quand il veut nous faire faire quelque chose, ou Dieu vient nous voir parce qu'il a un reproche à nous faire. Mais en fait, Dieu ne vient pas nous voir, Dieu est toujours avec nous. Et quand je suis dans mon tracteur en train de travailler les champs, j'aime bien écouter des messages et il m'arrivait souvent d'être en larmes parce que tellement la présence de Dieu était là et ça touchait mon cœur. Mais dans ma compréhension, Dieu nous rencontre quand on prend du temps pour lui. Dieu nous rencontre quand on met du temps à part pour lui. Et donc je me suis dit, ah si c'est comme ça dans le tracteur... Alors donc j'arrêtais les choses parce que ce n'était pas un temps que j'avais pris pour Dieu. Donc j'arrêtais les choses et je me dis, mais qu'est-ce que ce sera ce soir quand je vais prendre un temps pour Dieu? Et vous savez ce qui se passe le soir? C'est que il y a les enfants à coucher, il y a plein de choses imprévues et puis il n'y a pas de temps pour Dieu et finalement il n'y a rien. Et un jour j'ai entendu un message d'un pasteur qui disait, Dieu vient nous rencontrer dans les choses qu'on aime faire. Alors je me suis dit, mince. Alors lui, il parlait de moto, parce qu'il aimait faire de la moto, et quand il s'est rendu compte que quand il faisait de la moto, Dieu venait lui parler. Et alors je me suis dit, mais c'est ce qui me passe dans mon tracteur. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais la prochaine fois que ça m'arrive... Eh bien, je vais apprécier ce moment avec Dieu. Dieu ne vient pas seulement à notre rencontre quand nous prenons du temps pour lui, les choses qui sont organisées, mais Dieu vient à notre rencontre parce qu'il nous aime, même quand nous sommes dans notre quotidien. Alors, il y a des choses qu'on aime moins faire, et Dieu vient aussi nous rencontrer. Sinon, parfois, il y a des moments où on serait tout seul. Alors ce matin, je ne veux pas prolonger, simplement j'aimerais vous encourager avec cette parole. Dieu est avec toi. Dieu est avec chacun de nous, quelle que soit la situation où on est. Et ne te demande pas si Dieu est avec toi, ou ne regarde pas tes circonstances pour juger si Dieu est avec toi ou si Dieu est favorable. Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Et j'aimerais terminer en priant. Seigneur, merci pour cette révélation de ta parole où tu dis que tu es avec nous. Et Jésus, tu as dit, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pardon, Seigneur, là où nous avons pensé que tu t'étais éloigné de nous. Pardon de penser que parfois tu nous as laissés tout seuls dans notre misère. Et Seigneur, ce matin, je veux proclamer que tu es avec moi. Seigneur, je ne veux plus accepter cette pensée que tu n'es pas avec moi. Je veux vraiment ce matin proclamer dans ma vie, tu es avec moi. Je veux proclamer dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, que tu es avec eux. Et si tu ne t'en rends pas compte ce matin, je demande au Seigneur qu'il ouvre tes yeux afin que tu le vois. Dans la situation où tu es, dans les difficultés, dans les joies, que tu vois le Seigneur avec toi, que tu entendes le son de sa voix qui vient t'enseigner, qui vient toucher ton cœur, qui vient te fortifier, qui vient te faire progresser. Merci Seigneur pour la terre promise. Merci parce qu'elle est là et parce que si nous marchons maintenant, nous savons que tu nous donnes ce que tu as promis. Et Seigneur, je te remercie pour la récolte que tu as donnée, la récolte physique. Je te remercie pour la bénédiction que cela va procurer, pour la nourriture que cela procure. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es à l'œuvre et tu transformes mon cœur. Seigneur, ensemble, nous voulons te bénir, nous voulons glorifier ton nom. Amen.